Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en public, formidable public, à l'Opéra National de Lorraine à Nancy pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le Saint-Siège de la critique, Sophie Avon de Sud-Ouest, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession, Eric Neuhoff, à qui on va donner un dossard, mais bientôt, du Figaro, Pierre Murat de Télérama, pour parler notamment de deux documentaires, l'un consacré au pape François, l'autre à Whitney Houston, mais également des films Invasion, Photos de famille, Première année et Mademoiselle de Jonquière. Dans le courrier de la semaine, avis très partagé pour Burning de Lee Chang-dong, encensé, vous le savez, au masque et la plume. Les plus durs, eh bien, c'est Adrien Hamelot, mon pauvre masque, comment peux-tu être si élogieux pour cette purge interminable qu'est Burning, dont les moments les plus palpitants sont un Marcel Marceau du pauvre et les crottes d'un chat invisible. Madame Michèle Lemonnier s'est beaucoup ennuyée, s'est filmée sans rythme par un réalisateur qui se croit tellement génial qu'il peut se permettre des longueurs abusives. L'acteur principal a un air abruti, il a toujours la bouche ouverte, c'est agaçant. Bon, admettons qu'il se trouve une critique sociale de la Corée du Sud, mais 2h30 pour découvrir qu'il y a des pauvres et des riches en Corée. Jean-Jacques Coriot, d'Aix-en-Provence, juge que Lee Chang-dong souffre dans ce film du syndrome Kechiche, avec des plans systématiquement trop longs et l'ennui que cela génère. T'as l'air assez d'accord d'ailleurs, Eric. Hein.
C'est pas moi qui ai écrit.
Tu parles. Ou alors c'est Kate Blanchett qui a trouvé trois auditeurs pour écrire à sa place.
Oui, parce que
oui, le convient, film était nulle part au festival. Oui, convient, David Héranval Malais de Nantes. Burning, c'est lent, hypnotique, mais captivant. Scénario énigmatique, le réalisateur nous laisse avec des tonnes de questions. Chacun se fera son propre film. Comment, une fois encore, le jury de Cannes a-t-il pu passer à côté d'une telle pépite?
Un bon auditeur.
Voilà. Il y a aussi Alain Lévy. Je ne sais pas si c'est un rapport avec toi, Pierrot. Alain Lévy qui s'occupe du ciné-club Trois Pierrot à Saint-Cloud.
Ah non, mais avec joie, tu me donneras les coordonnées.
Oui, toi t'es un Pierrot là.
Tu es un Pierrot.
Alain Lévy nous dit que Burning lui a fait penser à Providence de René, dans le sens où l'on peut voir des projections mentales du personnage principal et à Vertigo pour la part de rêve contenu. Enthousiasme unanime en revanche pour Guy d'Alex Lutz, Alice Beaumarchais. Mes amours dominicales, ça j'aime beaucoup. Bravo et merci d'avoir recommandé Guy, c'est vraiment de la belle ouvrage, ciselé à souhait. Le film vaut même d'être vu deux fois pour apprécier tous ces petits détails qui n'en sont pas. Quelle belle surprise en effet. Comme vous, je ne m'y attendais pas, ce qu'on avait avoué à cette tribune. Franck de Joigny, le talent maquillé d'Alex Lutz est un hommage à une génération qui tire sa révérence et démontre que tout peut perdurer. Ou encore Arnaud Sanquer, qui tient que si tous les films populaires avaient ce degré de qualité, le cinéma aurait de très beaux jours devant lui. Et pour finir, eh ben, vous êtes aussi sévère que nous, si j'ose dire, pour Black Lanceman, le film de Spike Lee avec Cathy Marnier de Nogent, qui nous parle d'un film hybride, lent, sans nervosité, sans rythme, sans colère. Le film n'est pas à la hauteur de son sujet. Ou Fred de Bordeaux, qui trouve le film barbant du début à la fin et le scénario grotesque. Ou encore Pascal Hénard de Bourg-les-Valences, qui nous dit le film de Spike Lee est trop dichotomique. D'un côté, les gentils du Black Power et les méchants abrutis du KKK. Ce grand prix est celui de l'ennui. Voilà.
Mais ça marche très bien en salle, ça frôle le Spike Lee, oui. D'entrée déjà.
Le Alex Lutz aussi, hein.
Oui, absolument. Mais Black Sandman, qui est quand même pas moins bien accompagné, on va dire, par la critique, fonctionne très bien.
Et Burning,
Burning marche très bien
dans cette combinaison et malgré sa durée.
Pour un film long. Allez, on commence avec Mademoiselle de Jonquière, l'adaptation d'un passage de Jacques le Fataliste, le roman philosophique de Diderot, par Emmanuel Mouret, le cinéaste de L'Art d'aimer et de Caprice, qui pour la première fois s'essaie au film à costume. Je suis pas un fan de Mouret en général, mais là je dois avouer que les costumes m'ont assez convaincu, des costumes qui vont très bien à Cécile de France et à Édouard Baird, que je vous le rappelle, vous retrouverez tout à l'heure en direct de 22h à minuit pour Lumière dans la nuit. Donc, Madame de la Pommeraye, Cécile de France, jeune veuve qui s'est retirée du monde, mais a fini par céder aux avances du très libertin marquis des Arcis et Édouard Baird, jusqu'au jour où elle découvre que le marquis s'est lassé de leur édile. Et elle décide de se venger avec la complicité de Mademoiselle de Jonquière, qui est jouée par Alice Izaz, et de la mère de cette dernière, qui sont ce qu'on appelait alors des femmes de petite vertu. On est dans le 18e des liaisons dangereuses, que Mouret filme avec une simplicité assez frontale, il faut dire très romérienne, et par tableaux successifs, comme pour mieux faire entendre la sublime rhétorique de l'époque, où excellent Cécile de France et Édouard Baird, donc Xavier.
Complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Il fallait qu'il y arrive au film à costume, de toute façon, il y avait un côté suranné dans ces films contemporains, très littéraires, qui allaient chercher toujours des racines, justement, dans le théâtre ou dans la littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc un jour, il fallait qu'il se coltine au costume, et ce qu'il en fait déjà en termes de mise en scène et de reconstitution est extrêmement intéressant, parce que il contredit l'habitude de ces films très découpés, où on va effectivement s'arrêter sur la tasse de thé, sur le fauteuil, sur la bergère, qui atteste bien du travail du chef décorateur. Il n'en a pas grand-chose à faire. D'ailleurs, il débarrasse très souvent le décor de son superflu. Il va même jusqu'à inventer un délicieux petit salon au bord d'une rivière, comme si ce qui l'intéressait, ce sont ces lieux de transition, ces lieux du social, ces lieux où on se salue, où on se rencontre, les salons. Il y a très peu de chambres à coucher dans cette histoire-là, et quand elles sont là, elles ont une force, parce qu'elles apportent de l'intimité à quelque chose qui est toujours sur la rétention. On est dans le social, on est dans la représentation, on est dans la société. Il va se faire une histoire bouleversante, tragique. Tu parles de complicité de Mademoiselle de Jonquière, elle est quand même manipulée, elle est quand même aussi une victime collatérale de cette histoire-là. Ça va arriver jusqu'à la découverte du libre arbitre, malgré les conventions, malgré ce que nous intime, ce que nous impose la société environnante. Il y a un jeu d'acteurs qui est extraordinaire. Mouret, vraiment, je dis extraordinaire, et je le dis pas en vain, parce que Mouret a travaillé quelque chose de pratiquement musical dans sa composition. C'est-à-dire que Édouard Baird, il est moderne, il est contemporain, il va apporter dans cette langue du 18e quelque chose d'important, quelque chose d'instinctif, qui est contrebalancé et pas contredit, qui est contrebalancé.
Oui, mais tout en ayant, je trouve, la rhétorique de l'époque.
Ah, mais il est complètement dans la rhétorique. Mais de toute façon, il a ce côté de toute façon petit marquis du 18e, voilà, quelque chose. Sauf qu'il le dit en se débarrassant d'éthique, il joue pas, il cherche pas à jouer. Elle, en revanche, Cécile de France, qui n'est pas une actrice que j'apprécie énormément, elle m'a bouleversée, parce qu'elle va travailler quelque chose qui est un langage de tête, qui va apporter de la musicalité, qui va apporter de la tonalité, de la couleur, de la variation, de la graduation. Lui, qui est toujours Édouard Baird, un peu sur le même premier degré, elle, elle va travailler des nuances, elle va devenir carnassière, elle va devenir vengeresse, elle va devenir douce, elle va devenir amoureuse. Et puis, il a inventé un personnage qui est joué par Laure Calamy.
Laure Calamy,
Laure Calamy, ouais. C'est ça, pardon. Qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle est à la fois la narratrice, le témoin.
Alors, elle va provoquer. Qui n'est pas dans le récit
de
Diderot.
Un film éminemment moderne et contemporain dans un siècle très bien reconstitué.
Récit, je le rappelle d'ailleurs, que Bresson avait porté à l'écran.
Oui, dans du
Bois de Boulogne.
C'est
les dialogues, et les dialogues étaient signés
Jean Cocteau.
C'est même
il n'y a pas d'amour, il n'y a que les preuves d'amour.
Pour moi, c'est un petit problème quand même.
Et pourquoi?
Parce que
on n'est pas obligé d'avoir vu le Bresson.
Ah non, pas du tout. Mais Bresson, qui n'était pas un imbécile, et Cocteau, qui n'était pas non plus, ont compris quand même assez vite qu'il fallait commencer le film bien plus tard, contrairement à Emmanuel Mouret. C'est-à-dire qu'il nous épargnait les 25 premières minutes que je
trouve. Il va nous raconter la fin.
Non, justement, je raconte le début. Extrêmement longue, où, en effet, le marquis fait sa cour à, donc, la marquise de la Pommeraye, et puis elle s'est passée, et puis elle le prend cynique, etc. Et puis le temps passe. Alors, il est absolument incapable, Emmanuel Mouret, de montrer le temps qui passe. Ça se dure pendant des années. Et tout ce qu'on montre, c'est un arbre qui grandit. Ah là oui, c'est quand même le minimum syndical de la métaphore pour montrer que le temps passe.
Et
à partir du moment où il arrive au bout de 25 minutes là où commençaient Bresson et Cocteau, c'est-à-dire à partir du moment où la marquise, prétextant une indifférence, fait avouer l'indifférence de son partenaire, là on redevient dans la cruauté, et je trouve que le film est vraiment très bien, au détail près que le film de Bresson avec Maria Cazares, c'était la vengeance d'une femme.
Absolument.
En quelque sorte. Voilà. C'était la rancune.
Qui était d'ailleurs plus proche du texte de Diderot. Hein.
Voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai entendu, parce que le film a été repris, réédité très récemment, j'ai entendu quelqu'un dans une grande radio qui disait « Ah donc, Bresson était un pré-Weinstein ». Alors, ce qui est quand même la chose la plus bête à dire, mais là, ce qu'il a
c'était
fait,
pas c'est pas sur France Inter, ça.
Non. Mais ce qu'il fait dire à Cécile de France, qui est en effet très bien, moi qui est une actrice que j'aime bien, c'est que il le fait peut-être un peu lourdement, mais c'est sur la cause des femmes. Mais je pense qu'il aurait, il se serait économisé de 25 minutes, ça aurait été nettement mieux.
C'est beaucoup 25 minutes pour un film.
Sophie. Non, mais au contraire, je trouve que ces 25 minutes sont magnifiques et je pense que la force du film, elle vient de cette construction que lui apporte par rapport au texte de Diderot, justement, parce que ça permet au film d'avoir un mouvement général qui est par métamorphose successive et qui avance comme ça. Et là où il est très fort, je trouve, Mouret, c'est qu'il arrive à croiser finalement deux mouvements complètement contradictoires qui sont le premier mouvement qui est une, finalement, ce qui est à l'œuvre dans le film, c'est une introspection collective. Et un deuxième mouvement qui est plus dans l'horizontalité, qui est cette vengeance. Mais avant la vengeance, et pour qu'il y ait cette vengeance, et pour que cette vengeance ait du prix, et pour que ça soit aussi cruel après avoir cru au bonheur de l'amour, il fallait ce début.
Non, il fallait
mais oui,
pas.
Il fallait que Madame de Pommeraye croie qu'elle puisse séduire ce séducteur qu'est le marquis des Darcy, et qu'elle y croie ce bonheur. Parce qu'elle y croit.
En une phrase, Cocteau le disait.
Moi, il me semble que c'est au contraire comme ça que le film gagne. Cette façon de croiser aussi, ce qui est très beau, et là encore, Cécile de France, elle est magnifique, qui a un spectre d'émotions extrêmement large, qui en un quart de seconde passe de l'allégresse feinte ou pas à la grande tristesse. Et je trouve que tout ça, ce croisement de souffrance, d'allégresse, de verticalité de l'introspection, d'horizontalité de l'avance qui avance, tout ça arrive à un film qui décape énormément les apparences. On fait fi des apparences, des Salam Alek et compagnie, et ça c'est très fort dans le film.
Malgré les costumes, Mouret complètement dans son élément, parce que lui, son terrain d'élection sont les mots. Et cette époque-là, c'est la conversation, l'art majeur. La conversation, les promenades, les parcs, les bassins.
Mais avant, il était tellement pastiche, nouvelle vague, avec ses conversations qui
n'en finissaient pas. Oui, mais bon, il le faisait bien.
C'était assez ridicule.
Ah, moi, j'ai toujours trouvé que ça avait un charme. Mais là, je sens qu'il est corseté par l'époque, et ça lui réussit encore plus.
Mais ça lui donne de la liberté, paradoxalement.
Une liberté complète, et les acteurs s'amusent beaucoup. Édouard Baird, qui sort d'un film de Vadim, un peu débraillé, qui n'attache jamais sa cravate, le séducteur, avec un ton à la fois moderne et démodé, là, parce que on sent qu'il aime manger son texte. Cécile de France, qu'on prenait pour une mauvaise animatrice des Césars, là, tout d'un coup.
Elle était très bien chez Dardenne, en vélo.
Elle était mieux que le vélo, mais c'est tout.
C'est pour le plaisir de faire un beau. C'est uniquement pour le plaisir de faire un beau.
Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire.
Non, mais elle est très bien. Là, on voit cette fille qui est pleine d'espoir, de santé, de sentiments, s'aigrir, l'amertume, la vengeance. Elle le rend très, très bien. Et Mouret, c'est un type qui compte vraiment dans le cinéma. Et si on aime l'amour, si on aime les sentiments, si on aime la vengeance, on a quelqu'un qui est un Stephen Frears dont on n'a pas à rougir.
Mademoiselle de Jonquière, c'est donc le nouveau film d'Emmanuel Mouret. Première année du docteur Thomas Lilti, car je vous rappelle que ce cinéaste, celui d'Hippocrate et de médecin de campagne, est médecin, contrairement à Xavier, qui s'est arrêté en...
En cinquième année. Je pense que l'humanité pour me remercier quand même.
Non, mais quelle idée de faire 5 ans et d'arrêter.
Mais parce qu'en plus, derrière...
Ça fait le plus dur.
Mais non, mais derrière, il y en a encore plein. J'avais aucune envie. Je mettais le bras dans un engrenage qui n'était pas fait pour moi.
Mais
moi,
jamais je serais allé me faire soigner chez toi. Mais n'empêche que... Non, mais en plus, c'est sérieux. Hein. Je regrette que tu aies arrêté pour devenir critique de cinéma.
C'est ce que j'allais dire au masque et la plume. C'est pour te dire à quel point la carrière est foutue. Hein.
T'aurais pu faire la seringue et la plume, par exemple, tu vois, ça aurait été bien. Des études...
Toujours un truc de piston avec
des
toi.
Des études que, en revanche, Lilti a fait jusqu'au bout et qu'il revisite avec ce film où est décrite la première année de fac, au terme de laquelle, vous le savez sans doute, un impitoyable concours offre, et le plus souvent refuse aux étudiants, le droit d'apprendre à soigner. Il suit donc deux étudiants devenus amis, Antoine, c'est Vincent Lacoste, qui tente ce concours pour la troisième fois. Toi, tu l'as fait deux fois, hein, c'est ça ?
À l'époque, on ne pouvait pas le tenter plus de deux fois, mais je pense qu'il faut une dérogation. Plus, hein.
Et Benjamin William Lebgill, qui est fils de médecin et qui vient d'avoir, lui, son bac. Et le film raconte leur préparation à l'épreuve finale, qui ressemble à une sorte de version folle de questions pour un champion ou du maillon faible, sans Boccolini. Et là, selon Thomas Lilti, la première année de médecine est fondée essentiellement, ça tu me le confirmeras, sur la compétitivité à tout craint, la rivalité, la performance... D'autant plus effrayant et absurde que la médecine n'a aucune place dans cette formation. Et le hasard du calendrier quand même fait que la semaine dernière, c'est incroyable pour le lancement d'un film, on a appris que le gouvernement voulait absolument mettre fin au numerus clausus ainsi qu'au concours de première année, de fin de première année. Et dorénavant, si j'ai bien compris, les élèves de fac passeront des partiels comme dans les autres facs. Et donc, ce concours actuel serait supprimé. Je rappelle quand même qu'en 2017, on n'est pas au téléphone sonne, mais il faut le rappeler quand même, sur les près de 60 000 candidats, 8 000 seulement, 8 200 ont été reçus en médecine, soit à peine 15% des participants. On va commencer par Pierre qui, lui, n'a eu aucune envie de faire ses études de médecine.
Alors là, je peux te le confirmer.
Il jouait au docteur, pourtant.
Jamais, jamais. Oui, ça, à la rigueur, mais de l'autre côté, non, non. Ben, moi, alors, le problème, c'est que je trouve ça pas très bon.
Ah.
T'as tort,
c'est bien pour ce film.
Ben, non, c'est pas bien.
Si,
je
c'est
trouve
bien.
Que... Non, en fait, ce qui est bien, et ça se confirme, je pense que le réalisateur, qui a de l'expérience, il a fait ça, il est plutôt doué pour le documentaire. On va parler de documentaire. Et je ne regrette pas que ce n'en soit pas un. Parce que ce que je trouve très, très bien, c'est en effet les cours. Surtout le hangar, je ne sais pas comment c'est, dans lequel ils passent les examens.
À la fin.
Oui,
à la
c'est Villepinte.
Oui, voilà. Ça, c'est magnifique. On n'avait jamais vu ça.
C'est voilà. Effrayant, d'ailleurs.
C'est assez effrayant.
Le plan est effrayant.
Mais tout ce qui est sur voilà comment ça se passe, je vais vous montrer comment une première année se déroule avec les angoisses, avec le fait que personne ne vive. Mais c'est presque un documentaire pour moi. Le problème, c'était déjà le cas dans Hippocrate, que j'aimais bien, mais il y avait quand même un problème dans Hippocrate, et dans le deuxième, qui s'appelait Médecin de campagne,
qui était avec...
Avec François Cluzet. Ouais.
François Cluzet.
Eh bien, le problème, c'est que je trouve qu'il n'a aucun sens du romanesque. C'est-à-dire qu'il est tellement sur son cas, c'est-à-dire de montrer comment ça se passe physiquement.
Si la relation entre ces deux, c'est une relation d'amitié...
Oh, oui,
si, mais... assez belle, non, mais... c'est romanesque, enfin, ça.
Ben, c'est très peu romanesque, justement, par rapport à tout. Moi, je me souviens d'un film d'Emmanuel Bourdieu, qui n'était pas sur la médecine, mais qui s'appelait les Amitiés Maléfiques, qui était aussi sur les concours, etc., qui était beaucoup plus fort.
Côté littéraire.
Oui, mais c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus romanesque, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus ambigu, beaucoup plus... Là, c'est tout mou au point de vue ce qui se passe entre les deux. Il faudrait qu'il fasse des documentaires et pas de la fiction, voilà. Mais à part ça, il a du talent, et puis c'est tout, voilà.
Éric ?
Pierre est injuste, quand même, parce que c'est un mélange...
Personne ne me l'a jamais dit, ça.
Non, c'est un mélange de la gifle...
On dit qu'il raconte la fin des films, mais on ne dit pas qu'il est...
Un mélange de la gifle et des cousins, avec, pas le rat des villes et le rat des champs, comme chez Chabrol, mais ce mélange de camaraderie et de rivalité entre les deux héros, ça, c'est très, très bien rendu. Et puis, on voit ce que c'est que cette première année de médecine.
Oui,
c'est un marathon qu'on doit courir comme un sprint. C'est exténuant. Ce sont des adolescents...
Ou ça n'est que de l'apprentissage par cœur.
Par cœur, et ça prend un temps. Ils n'ont pas une minute à consacrer aux filles. Ils ont dans leur chambre de bonne une voisine qui leur apporte des plats cuisinés. Mais ils s'en fichent complètement parce que s'ils commencent à regarder de ce côté-là, ils vont être calés. Et il rend très bien ça, Lilti. Déjà dans Hippocrate, on voit que c'était ceux qui avaient réussi.
D'ailleurs, où Vincent Lacoste était déjà médecin, si j'ose dire.
On voit ce que c'est. C'est un film qui rajeunit. Acheter les polycopiers, voire économiser parce qu'on ne va pas en prendre en double. Et le boulot que c'est, les QCM, tous les rituels, toutes ces amphithéâtres où on se bagarre pour avoir une place.
C'est un reportage. Ouais. Tu es bien
d'accord. Non, c'est pas du tout un reportage.
Si,
on se bat encore plus que pour rentrer dans l'opéra à Nancy, là, pour assister au cours. Et il y a des scènes très romanesques. Je raconterai pas la fin.
Non, mais c'est très romanesque. Le plan final.
Non, mais même avant.
Je vais vous dire. Le plan final.
Non.
Vous évitera d'y aller,
Sophie.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec Pierre. Je trouve qu'au contraire, évidemment, c'est un film. Enfin, il parle de son expérience personnelle. Et tous ces films sont des films très justes. C'est des films sur la vie telle qu'elle est. Mais c'est pas parce que on fait des films vrais qui sont justes avec des personnages qui sont vrais parce qu'il les connaît, parce qu'il les a bien dessinés, qu'il n'y a pas de romanesque et que c'est un reportage. Non, je suis pas d'accord. C'est au contraire un film où il y a de la transcendance. C'est un grand film sur la jeunesse. C'est un film sur l'amitié, comme tu le disais.
Ah oui.
C'est un film évidemment de dénonciation. C'est un film sur l'époque aussi, parce que malgré tout, c'est
et puis,
sur
c'est
la
un
vitesse,
film sur,
sur
ce
la
concours.
Et,
fou,
et c'est un film
malade,
sur ce concours.
Si j'ose dire,
et c'est pour ça que je dis,
pour
c'est
un concours de médecine.
Bien sûr, et c'est un film politique dans la mesure où il dénonce le concours, etc. Ce que j'aime justement dans les films de Lilti, c'est que tous sont des films avec une trame extrêmement simple, mais il a un sens justement du romanesque et de l'humanité qui fait qu'il fait mouche, il est hyper émouvant. Moi, j'ai pleuré dans ce film. Oh. Je l'ai trouvé mais je l'ai trouvé réellement très très émouvant.
Parce que
c'est la vie elle-même.
La version de Bresson était beaucoup mieux.
Vous voulez pas que je termine ma phrase?
Ah bah je pleure plus à Bresson si tu veux
mec,
le faire.
Je vous laisse parler. Pardon, c'est pas grave. Les gens jugeront. Bah voilà. Non, je trouve que c'est un film. C'est un film.
Ça tu l'avais encore jamais utilisé au mars.
L'histoire jugera même.
Parce que c'est la vie justement. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion et c'est pas de l'émotion à deux balles.
Et puis ces deux comédiens sont excellent.
Je pense que ça tient beaucoup au fait que les personnages sont bien dessinés et que les comédiens, en effet, sont très bons.
Alors le presque, je t'ai gardé pour la bonne bouche, le presque docteur Xavier Le Herpeur, qu'en pense-t-il de ce film ?
Moi d'abord, j'aime beaucoup Thomas Lilti et au contraire de Pierre et en totale adhésion avec Sophie, je trouve qu'il met du romanesque là où justement il pourrait n'y avoir que du reportage ou que du témoignage. Sauf que c'est du romanesque discret mais qui sous-tend vraiment terriblement bien son histoire. Moi je voulais pas être médecin.
Tu fais 5 ans et tu veux pas être médecin?
Non, mais je savais que je serais jamais médecin dès le premier. J'ai eu le concours vraiment presque par hasard.
Et par hasard? En trichant.
Et aujourd'hui, non, parce que j'avais fait une terminale C et que j'ai eu des bonnes notes en maths et en physique et en chimie. Mais en anatomie, j'étais très mauvais. Et s'il y avait eu un juré pour corréler un tout petit peu les notes, il m'aurait viré de façon très légitime. Après, j'étais menacé par pharmacie. Donc, tu imagines un tout petit
peu. Mais là, tu nous fais 5e année, tu nous racontes.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple.
Il faut expliquer que quand on est parçu, on a.
Il y a dentaire aussi.
Voilà, il y a dentaire, il y a pharmacie.
Alors qu'à l'époque, dentaire, c'était la matière noble et on était vraiment vraiment tout le monde voulait dentaire et personne ne voulait de métier. Non, moi ce qui
on
m'intéresse
encore un appel peut-être pour avoir une question sur la
par exemple
sur la filière dentaire.
Là où il y a du romanesque par exemple, la scène de la fin que je ne raconte pas mais elle est terriblement même romanesque avant, et elle est inspirée d'une
elle est d'ailleurs improbable.
Et pas tant que ça. Ça ressemblait à quelque chose de cet ordre-là. Il déplace un tout petit peu le curseur pour faire effectivement un happy end, enfin une histoire qui se termine plutôt bien, mais là où c'est très fort et très romanesque, c'est que nous avons deux personnages derrière. Il y en a un qui n'y arrive pas et qui rêve d'être médecin. Et moi, je suis passé devant des gens, effectivement, dont c'était le vrai rêve, la vraie conviction, la vraie vocation, et qui ont vu les portes se fermer à un espoir de vie, à une ambition de vie. Et c'est terrible. C'est terrible comme des petits cons comme moi, 3 ans plus tard, vont finir par accrocher et par se dire que c'était pas fait pour moi, alors qu'ils le savaient dès le premier. Et puis, il y a le personnage, effectivement, de William Lebgill, qui le fait presque désinvolte, qui le fait presque pour hériter de papa, qui le fait presque sans difficulté. Et c'est dégueulasse. Et leur amitié, d'ailleurs, va être mise derrière l'épreuve. Elle n'est pas solidaire tout le temps. Il y a des moments où ça crisse, il y a des moments où ça se dispute. Pierre, tu as raison, c'est une année zéro quéquette. Alors là, on l'arrange pendant 1 ou 2 ans. Non, mais évidemment, on l'arrange, on n'en fait pas. Ou alors quand
le
on baisse,
c'est
uniquement pour réviser l'anatomie, tu vois. Mais.
Qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans?
Je sortais un tout petit peu la chaude.
Oh! Ce soir, ils sont fous.
Xavier!
Mais c'est très fort parce que.
Je sortais la chaude.
Leur amitié.
On est à Nancy, tu n'y penses pas.
Leur amitié, elle compense justement toutes les frustrations allez. Ah bon, d'accord.
Non, mais mes enfants, on a encore 4 films.
Il y a une dame qui vient de se lever
vous allez intervenir, mais on a encore 4 films à évoquer.
Oui, mais regarde, elle est délicieuse, mademoiselle.
Alors attendez, je rappelle le titre, c'est Première année et c'est de Thomas Lilti. Ici, je vous le rappelle, on est à Nancy à l'Opéra National de Lorraine. Une intervention dans cette magnifique salle. Bonsoir mademoiselle.
Bonsoir. Je voulais justement rebondir sur votre intervention qui disait qu'il n'y avait rien de romanesque dans ce film, mais vous n'avez pas souligné l'aspect, la relation qu'il y a entre le personnage de William et son père, qui est quand même, moi c'est ce qui m'a le plus touché dans le
Absolument.
Film en fait. Et je trouve que ça,
père médecin.
Ça fait beaucoup sur... Oui, père médecin, ça rajoute un énorme bon pont au film pour moi.
Merci de votre intervention. Pas d'autres réactions ici sur ce film. Je le disais, on va aller un peu plus vite. Photo de famille, le deuxième film de Cécilia Roux avec Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre Deladon, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lobby. Un film qui commence dans un cimetière et où Jean-Pierre Bacri fait donc sa tête habituelle qui est celle d'un croque-mort. Sa femme dont il est séparé depuis belle lurette, c'est Chantal Lobby qui est psy. Voilà, Lobby est psy. Ils ont 3 enfants, Gabriel Le, Vanessa Paradis, qui fait la manche très bien en statue dorée dans Paris. C'est pas évident. Elsa, c'est Camille Cotin, la comédienne qui monte, qui monte, qui monte. Ella qui crève de ne pouvoir être enceinte et Mao, c'est Pierre de la Donchamp, un game designer qui veut mettre fin à ses jours en se jetant dans la Seine. Trois enfants donc dont les parents 68 ans ont raté, c'est le mot est faible, l'éducation, qui s'évitent mais qui se retrouvent pour s'occuper de leur grand-mère Alzheimer et se souvenir de leur maison de vacances où ils ont été très heureux. Comédie légère sur la famille décomposée où même on entend Vanessa Paradis mais massacré, It's a Wild World de Cat Stevens, et dont la question récurrente est que faire de Mamie. Sophie,
Je trouve ce film très 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 médiocre, très faible.
L'histoire jugera.
L'histoire jugera. Non, c'est un film qui a pas une ambition folle, mais qui en même temps se veut une chronique. Une chronique tendre, attendrissante, émouvante.
T'as pas été ému du tout, toi.
Mais pas du tout, pour pas la bonne tout. Raison. Mais c'est très simple, parce moi, que les personnages... Pour moi, les personnages sont tellement stéréotypés, sont tellement faux. C'est-à-dire c'est un film qui part du principe qu'au lieu de dessiner des personnages vrais, on va faire des personnages qui vont faire rire. Donc tout est dévié, quoi. C'est-à-dire rire. Qu'on n'est pas. Oui, ils sont conçus pour ça. La mère, Chantal Lobby, qui est psychanalyste et dont on fait un personnage tellement stéréotypé, caricatural, d'une psychanalyste qui serait elle-même hystérique et finalement qui aurait les névroses qu'elle est censée. Oui, ben voilà, ça c'est un stéréotype, tu vois.
Non, mais
en effet.
Je te chatouille un peu, tu vois.
Oui, c'est... moi aussi.
Freud jugera.
Moi aussi, je te réponds.
Freud jugera.
Ben ça, moi, la psychanalyste qui va chez sa fille avec des poireaux pour cuisiner des poireaux, alors qu'elle sait que sa fille n'aime pas les poireaux, franchement, tu vois, ça te fait pas rire. Et ben
si,
moi, ça m'a pas fait rire.
Non, mais ça a un sens.
Non, mais c'est quand même ridicule. C'est
des
hyper...
poireaux pour
non, mais c'est
qui
hyper,
n'aime pas les poireaux.
Hyper préfabriqué, hyper. Tous les personnages sont définis par un trait qui... Alors, Camille Cotin, elle est juste définie par son désir d'avoir un enfant. Comme tu l'as dit, Bakri, il est juste défini par le fait qu'il est malheureux, qu'il fait la gueule, et donc il va avoir une grande scène d'explication avec sa mère. Et cette pauvre charmante vieille dame qui perd la mémoire, même elle est stéréotypée.
C'est elle la mère de Bakri, hein, je te rappelle.
Oui, je sais que c'est la mère de Bakri. Non, mais j'ai compris le film, je t'assure. Mais même elle, qui est une pauvre femme qui perd la boule, j'ai l'impression qu'on l'a vue des dizaines de fois déjà dans le cinéma français.
Bon,
donc,
en gros,
à la
t'as pas
fois,
aimé, quoi.
En gros, j'ai pas du tout aimé. Et le seul que je trouve bien, c'est le gamin, Solal. Et quand lui, il a rien à vendre. Il est bien, il est comme il arrive, et du coup, grâce à lui, je trouve qu'ils sont meilleurs après.
Xavier,
je suis pas du tout d'accord avec Sophie. Je veux bien admettre effectivement que le film est un peu prévisible, qu'il repose peut-être sur quelques archétypes de personnages et qu'il va exactement là où on le sait qu'il ira. Je ne raconterai pas la fin, mais enfin, là, je pense que tout le monde l'aura deviné au bout de 5 minutes. Mais je trouve qu'à travers de cela, Cécilia Rouault sème des petits cailloux, des petites choses qui crissent comme ça sous le pas des personnages.
Quand on voit l'état de la comédie française
déjà,
en général,
on est bien d'accord. À l'intérieur.
C'est quasiment du Madame de Sévigné.
Oui, et puis je trouve qu'elle
c'est très faible.
Elle a une manière de casser les évidences à l'intérieur des séquences qui est pas inintéressante, de les rompre comme ça, de les interrompre. Solal, c'est quand même un personnage.
Et tu trouves que les personnages sont crédibles?
Bah, écoute, parlons du personnage de Solal qui dit quand même à
sa
mère.
Le gamin, il m'a touché dans
oui,
son
le gamin, il va quand même dire à sa mère, je vais aller vivre avec mon père que je n'ai jamais connu, qui ne m'a pas reconnu, qui s'en fout un peu, qui me prend de temps en temps, mais je n'ai plus envie de vivre avec toi. Et elle essaye de tenir alors qu'elle s'effondre de l'intérieur et je trouve le personnage vraiment bouleversant. Camille Cotin, le problème, effectivement, elle s'empare d'un personnage qui est déjà un tout petit peu appuyé, et c'est pas une immense comédienne, mais Pierre de la Donchamp, je trouve qu'il traverse comme ça avec une nonchalance, une mélancolie, et mine de rien, les personnages, l'écriture, mais de façon presque subliminale, comme ça, avec des toutes petites choses, des petites variations à l'intérieur des séquences et l'écriture, apporte de la nostalgie, apporte de la mélancolie. Moi, Chantal Lobby, elle peut lire le bottin, elle me fout par terre, de toute façon, et je trouve qu'elle a une présence qui est là, et mine de rien, bah, ça traverse les peurs de la mort, les peurs de la maladie, les peurs de la solitude, en riant peut-être façon appuyée, mais en même temps aussi en
et
soulignant
puis la nostalgie
cette petite tragédie, voilà,
de l'enfance.
De l'enfant. Et même la scène de la fin, que je ne raconterai pas, même si je sais que vous vous attendez à ce que je la raconte, mais non, je ne la raconterai pas parce que je suis comme ça.
C'est
je
Pierre
suis totalement
qui
spontané
raconté.
Et inattendu. La scène de la fin...
Il me succède.
Sur les évidences, elle arrive encore à nous surprendre.
Bon, Pierre, on t'a lu dans Télérama cette semaine, t'aimes pas?
Ah non, alors cet été, évidemment, j'ai vu Ma Rome avec Audrey Lamy qui a fait 700 000 entrées et qui est un désastre. J'ai vu Neuilly, sa mère qui est une horreur.
Ah ben quelle idée.
Eh ben oui, je travaille, j'écris.
Attends, voilà. Mais t'as pas vu Tamara 2, le retour?
Non.
Ah
non. Donc, évidemment, par rapport
ça existe,
à...
ça.
Oui, ah bah c'était oui. Un des gros succès de l'été, Tamara 2.
Oui, oui. Alors évidemment, par rapport à ça, c'est mieux que Ma Rome et Neuilly, sa mère. Mais alors, ça, c'est...
Encore que Neuilly, sa mère.
Il faudrait discuter. Mais enfin, quand même, bon. C'est mieux.
Non, c'est mieux. Seulement, le problème, c'est que ce film, il est même pas mauvais, il est pire.
Oh.
Mais non, il est pire parce que c'est d'une gentillesse. C'est-à-dire que c'est pas voilà. vrai, ça voilà. se passe pas comme
le
ça.
Grand argument.
Mais il y a une vieille dame qui est alzheimérienne. Donc tout le monde se refile comme un vieux paquet, mais ils sont tous très gentils, ils l'aiment quand même. Bah. Les deux sœurs peuvent pas se blairer, elles sont toutes malheureuses et tout, mais elles s'aiment. Pierre de la Donchamp, qui est le meilleur de tous pour moi, il est vraiment très bien, mais qui souffre beaucoup d'avoir été appelé Mao, comme Mao Tse-tung, évidemment, donc ça le rend suicidaire, mais... Toutes les sœurs l'aiment, ils s'aiment, tout le monde est là à s'aimer, c'est dégoulinant. On a presque
tu n'as envie, pas d'amis.
Mais on a presque envie de voir arriver le héros de Festède ou que Pierre de la Donchamp.
Oh.
Mais non, on a presque envie de Pierre de la Donchamp, presque, parce que je déteste Festède. Mais au moins, il se passe quelque chose que Pierre de la Donchamp arrive en disant oui, il y a eu un scandale dans la famille que je vais vous révéler. C'est tellement gentil, c'est tellement dans l'air du temps.
Tu vas finir ta vie tout seul, Pierre.
Mais je finirai ma vie tout seul. Bah, si c'est pour
être mal,
il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme tu sais, hein, je veux dire.
Eric.
Oh, c'est mignonnet, c'est...
Oui, bon, donc,
non, il y a une gentillesse, une naïveté qui rappelle les feuilletons télévisés des années 60, comme les Saintes Chéries.
Tu ne serais pas un peu obsédé
mais
par
non,
les années 60
alors, et non. Si on touche aux Saintes Chéries ici, je me tire. Ah
bah. Parce que moi, j'adore les Saintes Chéries.
Hein. On est bien d'accord.
Les Saintes Chéries, c'est au-dessus.
C'est pas du tout un film dans l'air du temps racoleur, au contraire. C'est un petit peu démodé, un petit peu avec un rythme...
Mais c'est ça, l'air du temps, tu sais, maintenant.
Ah non. Et c'est un film sur la famille, donc il y a forcément du romanesque avec le rapport entre tous ces gens qui se sont remariés, qui s'entendent, qui se disputent, qui sont obligés de se revoir, qui déjeunent ensemble quand ils sont obligés. C'est pas mal du tout. Et il y a Vanessa Paradis qui est très très bien.
Elle est très bien.
Ah, oui, l'histoire d'amour, tu trouves que l'histoire d'amour qu'elle a, on y croit.
Mais c'est pas grave.
Ah, c'est pas grave.
Mais c'est ça qui est un drame. Et puis elle nous fait oublier sa prestation.
C'est pas un documentaire.
Un couteau dans le cœur. Rien que pour ça, le film mérite d'exister.
On l'a vu 20 fois, ce film.
Mieux. Et puis la grand-mère dont on veut se débarrasser sans trop poser.
Elle est très bien, d'ailleurs.
On l'a vu 20 fois,
mais on met ça dans un sketch des Nouveaux Monstres, on trouve ça épatant. Puis là, on dit, c'est un gentil film à la française. Française, comme il y en a peu, et qui ne mange pas de pain, et qui est très, très bien. Voilà.
Photo de famille de Cécilia Rouault. Pas de réaction ici à Nancy sur ce film. Un peu de SF, même beaucoup, puisque le film dure 2h20. Sur ma montre, j'ai l'impression que c'était 4h40. C'est Invasion du prolifique japonais Kiyoshi Kurosawa, où on voit le ciel de Tokyo s'obscurcir. Les humains qui perdent leurs émotions, les extraterrestres qui préparent leur invasion. Alors, au début, une jeune ouvrière remarque que son mari, qui travaille à l'hôpital, devient très bizarre et qui souffre du bras droit, tandis qu'une de ses collègues tient son père pour un fantôme. Les victimes d'une mystérieuse emprise vont se multiplier autour d'elle et puis déguisées en humains, les extraterrestres font une chose que j'aime beaucoup, ils posent leurs doigts sur le front des victimes.
Depuis E.T., c'est une manie.
Voilà, qui sont aussitôt déshumanisés, décervelés. Il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir. À tel point qu'à un moment donné, je me demande si je ne me suis pas endormi. Mais je sais que ça vous a plu, ce film. Eric, ça t'a plu, toi, je crois.
Oui, assez. Non, parce que le seul film de ce Kurosawa que j'avais vu, c'était le précédent qui se passait en France.
Mais qui était déjà ça, hein.
Ah non, pas du tout. C'était
une histoire de photographie. C'était avant que nous disparissions, qui était exactement la même histoire, la même pièce.
Ah bah, voilà.
Mais c'était l'an dernier.
Alors, j'avais rien compris au précédent, tellement il était mauvais. Mais celui-là, j'ai trouvé quand même assez épatant qu'on n'ait pas des aliens qui soient des monstres dégoulinants avec des bras qui traînent par terre et des yeux globuleux. Là, ils sont comme nous. Ils veulent tellement être comme nous que leur mission pour envahir la Terre, c'est de nous piquer ce qu'on appelle les concepts.
Ben oui, mais les émotions. 2h20 ?
Oui, mais c'est un petit peu long, effectivement. Mais tu sais, envahir la Terre, ça se fait pas en 2 jours. Et d'ailleurs, ils sont presque en train de regretter parce qu'ils doivent apprendre ce que c'est que la famille, la fierté, le passé, l'amour. Ils comprennent pas très bien, mais ils sont obligés d'apprendre ce que c'est que la peur de mourir. Alors, il y en a qui doivent se demander, on ferait mieux d'aller sur une autre planète. Non, mais c'est vraiment l'étrangeté du quotidien, toute la banalité qui devient assez étrange. Il y a des scènes assez réussies où l'alien en blouse blanche traverse l'hôpital et tout le monde tombe sur son passage. Ça, c'est très marrant.
Ah oui.
Mais oui, non. Ce couple qui essaye de se reconstruire, parce que le mari est un guide, lui. Alors, un guide, c'est celui qui leur sert de collabo, en gros, aux envahisseurs. Alors, faut faire très attention, parce que si tu as mal à la main...
Tu vas pas raconter les 2h20, parce que là, moi, je craque. Hein.
Ah, mais non,
j'ai
mais...
déjà vu, alors si en plus tu me le racontes dans le
je
détail...
Je suis pas sûr que tu donnes envie.
Ah, non, mais je vous trouve quand même très sévère, parce que... Je vois votre regard. Je vais vous toucher le front avec le doigt.
Non, mais lui, il a aimé, Xavier, je sais, il a aimé.
Non, c'est un Haïti moderne et sans maquillage.
D'accord. Pierre.
Moi, j'ai pas une passion pour ce cinéaste qui est très, très, très surestimé, peut-être à mon avis.
Et très prolifique.
Et voilà, c'est ça. Alors, il filme plus vite que son ombre, parce que donc, en effet, il a fait un film qui était la même chose que celui-là, mais en plus drôle, en plus fantaisiste. Et ça, c'est une série télé... qui durait donc 5h40,
oui,
qui
a été réduite
à 2h40. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme, ça tient pas la distance au point de vue, c'est beaucoup trop long. Même si l'original de la feuilleton télé durait 5h40, je trouve que 2h20, c'est quand même un peu long. En revanche, la première heure et demie, je trouve qu'il y a une ambiance de fantastique qui est créée avec rien, un rideau qui...
Il y a une inquiétude, pas une angoisse, mais une inquiétude.
Une inquiétude, j'ai dit angoisse, j'ai eu tort. C'est une inquiétude, un suspense, une bizarrerie, une étrangeté qui arrive avec l'enquête que mène cette femme. Pourquoi son mari devient-il différent? Comment ça se fait que ce nouveau médecin lui semble bizarre? Parce qu'elle, elle a très vite compris, parce que c'est une femme qui a quelque chose qui cloche. Et donc, voilà.
Non,
et
mais
donc...
j'adore l'argument.
Ben, oui, vraiment. Je croyais que tu allais dire c'est une femme intelligente.
Mais oui,
je croyais que tu allais dire
mais
ça.
C'est non, ça.
Mais c'est ah, donc une femme intelligente avec quelque chose qui cloche.
Surtout qu'elle a entendu le fin mot.
Mais oui, non, mais c'est une femme justement qui est intelligente.
J'essaie, mais.
Qui est sensible et qui donc a tout compris tout de suite.
Qui est intelligente, elle.
Elle. Et donc, je trouve que pendant une heure, il y a une inquiétude et une mise en scène qui est, pour une fois, très belle. Après, c'est trop long.
Bon, ça va être difficile.
Sophie.
Non, mais alors moi, en plus, je suis...
T'es une femme.
Voilà, j'ai quelque chose qui cloche.
Et parce donc... que tu n'as pas compris, c'est ça?
Oui, non, mais peut-être que... Non, j'ai parfaitement compris le film, je te remercie. Non, je...
Parce que t'es une femme.
Pour une
d'autant
fois.
D'autant que je l'ai vu deux fois, puisque avant que nous disparissions... Contrairement à ce que Eric semble avoir vu, c'est effectivement exactement le même film. Mais bon, sauf que il a essayé de le refaire. Moi, j'aime plutôt bien le côté je revisite le même motif et j'essaie de recommencer. Et moi, j'adore en plus Kurosawa. Je trouve que c'était vraiment un cinéaste. J'ai adoré
Sojukai.
Ah oui, l'autre,
moi aussi, j'aime beaucoup l'autre.
J'aime beaucoup ses autres films. Mais là, je dois reconnaître que, en dépit de il s'est installé la tension. Le début est très 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 beau. Puis après, il laisse de côté des pistes. On a l'impression qu'il expédie l'histoire, qu'il y croit plus lui-même. Et au fond, il retombe dans les ornières du précédent. C'est-à-dire que je pense qu'il veut mettre quelque chose d'un peu rigolo. C'est-à-dire qu'il pense que c'est un hommage, que la pièce de théâtre initiale est un hommage à la science-fiction des années 50. Et il essaie comme ça de récupérer quelque chose d'un peu drôle, d'un peu à distance. Et ça tue le film. Et toutes les pistes qu'il laisse de côté, les enchaînements qui deviennent très illogiques, tout à coup ça s'enchaîne mal, c'est pas très logique. Et toute la grâce du début est malheureusement compromise par la fin.
Xavier.
Alors, faut dire que c'est tiré d'une pièce de théâtre.
C'est compliqué.
Puis ça a été une série télé en 4 épisodes. Ça dure 1 heure de plus, c'est pas 5h40, comme Pierre a essayé de nous faire croire.
À combien,
j'ai admiré mes deux petits camarades du Muppet Show, là, qui, pour défendre le film, l'ont enfoncé.
Bon, je t'en prie.
3h20 en 4 épisodes, c'est faisable. Alors moi, Kurosawa, je n'aime pas du tout. C'est un cinéaste, mais qui me...
Vraiment, oui, comme moi.
Ne m'a jamais intéressé. Je l'ai trouvé toujours un mauvais copieur des grands maîtres.
Ce Kurosawa, là...
Kiyoshi.
Kiyoshi. Kiyoshi. Il avait fait un faux remake de L'Anguille d'Imamura.
Ah oui.
Et tout le monde se pâmait. Ah, c'est formidable.
Mais Shozukai, c'était magnifique.
Mais de temps en temps, il fait un bon film. Beau. Avant que nous disparissions, c'était quand même une purge, puisque c'est le film précédent qui inspire celui-ci. Et celui-ci, j'étais tellement étonné d'aimer que je suis retourné le voir. Pour vous dire que j'ai pas de vie quand même.
4h40.
4h40. Alors, j'ai toujours un bémol sur la fin. Non, mais j'ai pas de vie, hein. C'est une catastrophe, hein. Invitez-moi pour que j'aie autre chose à faire le vendredi soir que d'aller revoir les films de Kurosawa. Mais je trouve que celui-ci fonctionne. Et Pierre l'a dit, il y a un travail sur la mise en scène, sur l'inquiétude, sur l'étrangeté, dans des lieux qui devraient être des lieux de protection. L'appartement, l'hôpital et qui deviennent subitement des lieux extrêmement angoissants, avec rien, des perspectives, des rideaux qui volent au vent,
c'est très beau, le début est très beau, qui inspire, voilà, une étrangeté.
Après, ce qui est intéressant, c'est que le film quand même parle du Japon. La manière dont, de temps en temps, un séisme secoue l'hôpital quand, visiblement, l'extraterrestre est en train de faire quelque chose, c'est quand même la peur que tous les Japonais ont de disparaître, effectivement, sous les flots.
Mais c'est pas exploité, ça, tu vois. C'est suggéré, mais tant mieux, si c'était exploité, ce serait lourd.
La première, la collègue de l'héroïne, elle a perdu la notion de famille. On sait que la famille au Japon, c'est quand même quelque chose de très particulier, voire de très toxique, de très intrusif dans la vie quotidienne. Donc, mine de rien, c'est aussi un film sur l'inquiétude du Japon d'aujourd'hui. Et je suis, alors, désolé auprès de Jérôme Garcin, et encore une fois, j'avais démonté avant que nous disparissions, que je trouvais vraiment ni fait ni affaire. Celui-ci, en revanche, bah, il se donne un tout petit peu les moyens en termes de mise en scène et d'interprétation, de créer un climat qui fonctionne jusqu'à la dernière demi-heure. Je trouve que la résolution, quand même,
Invasion de Kiyoshi Kurosawa. Pas de réaction sur ce film ici. On passe pour le coup à des vrais documentaires pour finir l'émission. On commence avec un doc qui a été présenté à Cannes, Le Pape François, un homme de parole. Film produit par le Vatican, réalisé, mais oui, par Wim Wenders. Le cinéaste de Paris, Texas et des Ailes du Désir, un portrait, allez, hagiographique du 266e souverain pontife et premier d'Amérique du Sud, héritier direct, selon Wenders, de François d'Assise. Le film est construit autour des entretiens en espagnol que le pape plein cadre, face caméra, les yeux dans les yeux du monde, comme dirait Cahuzac, a accordé à Wenders sur des sujets habituels, l'avenir de la planète, les victimes des guerres, la pauvreté dans le monde, la place des femmes dans l'Église, et pas simplement au masque et la plume, le scandale des prêtres pédophiles. Mais à aucun moment dans le film, il ne préconise la psychiatrie pour les jeunes homosexuels. Bref, ce n'est ni une enquête, ni un documentaire critique, c'est selon les propres mots de Wim Wenders, un film d'amour.
Alors, tu me regardes, donc j'imagine que tu me passes la parole.
Non, pas encore.
Eh ben, attends.
Vas-y, Xavier.
On peut pas commencer un film sur le pape sans rappeler la phrase célèbre de Coluche. Le pape est un drôle de monsieur, toujours une robe, toujours un chapeau, jamais de sac à main. Voilà. Non, mais c'est pas moi, c'est de Coluche, mais remercions-le pour cette aphorisme toujours d'actualité, d'ailleurs. Si tu l'as dit, hagiographique, lénifiant, il regarde le pape les yeux dans les yeux, le pape quand même qui nous sort du Lara Fabian dans le texte. Hein. Dieu nous regarde avec le cœur, ouais, pourquoi pas. Le sourire est le reflet de l'âme du cœur, ouais, là ça devient quand même un tout petit peu...
Non mais ce qui est étonnant, c'est plutôt l'attitude de Wenders.
Alors il faut quand même dire une chose, c'est que Wenders considère que le pape François est une réincarnation de saint François d'Assise. À nouveau, une reconstitution, noir et blanc,
qui est une scène...
film muet, il y en a trois. Ne les manquez pas, n'allez pas faire pipi à ce moment-là, parce que rire autant au cinéma, c'est pas arrivé depuis longtemps. Espèce de truc, mais improbable, en noir et blanc, muet, enfin dans une cave, où t'as le pauvre Saint-François d'Assise qui regarde les cieux comme ça, avec sa petite plume à la main, et qui écrit sur des textes absolument... Sauf que, en sortant du film, c'est une catastrophe, on est bien d'accord, où est Wenders, enfin il est paumé, il est perdu pour lui. Je me dis, mais peut-être que c'est un chef-d'œuvre à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire que peut-être que c'est le plus grand film contre le pape François qu'on n'osera pas faire, puisque le pape François a plutôt la cote, il est plutôt sympa, il va dans les favelas, il n'a pas peur de toucher les pauvres, de toucher les femmes. Bon, il a un peu dérapé sur l'homosexualité, la psychiatrie, mais je crois qu'il ne voulait pas dire ça, enfin bon, bref. Sauf que, revenons quand même au titre, c'est un homme de parole. Et ouais, et d'acte, grand point d'interrogation. Parce que le mec, depuis 5 ans quand même, je suis désolé, hein, c'est mon côté mécréant, alors... Il enfonce les portes ouvertes. Hein. Oui, la pédophilie, c'est mal. Bah oui, coco, ça, merci. On t'a pas attendu pour s'en apercevoir. En même temps, quand on lui demande de prendre parti, comme à Belfast il y a quelques temps, il demande pardon à Jésus et pas aux victimes. Non. On va pas se tromper, comme, hein, on va pas prendre le risque. François, il a compris un truc, c'est-à-dire qu'il peut enfiler les évidences sans que les actes... Je suis désolé.
Tout le monde fait ça.
Pour les évidences... sans passer à l'acte, parce que de toute façon, on ne lui permettra pas. Donc, il est là en train de nous sortir un discours lénifiant, mais jamais il y aura de prise de position, jamais ce ne sera concrétisé. Donc, le mec ne sert à rien.
Mais non. Mais oui.
Et c'est ce que semble dire le film malgré lui.
Pierre.
Il sert à rien. Moi qui suis orthodoxe, je peux te le dire qu'il sert à rien, puisque nous ne reconnaissons pas, nous, l'infaillibilité papale.
Ah, moi, j'ai été baptisé.
Voilà, voilà, vous n'allez pas entrer là-dedans. Non,
mais pardon, c'est extrêmement important.
Alors, oui, oh là là.
Très rapidement, c'est simple.
Il y en a leurs années de médecine, leurs années d'enfant de cœur.
Mais non, même pas.
Je portais très mal la robe, donc.
Mais très bien le sac à main.
Dans le film, c'est très simple. Il y en a un qui fait son boulot et un qui le fait pas. Il y a le pape qui fait son boulot.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à Wenders?
Mais il fait pas son boulot.
Le pape fait son boulot. Il dit qu'il est pour le réchauffement, contre le réchauffement de la planète. Il est contre la.
Oh là là.
Mais non, mais voilà. Et il dit exactement des choses avec lesquelles nous sommes tous d'accord.
Bon, la pluie, ça mouille, la guerre, c'est moche. Bah ouais, t'as raison.
Mais oui, bah, il fait son boulot. Il fait son boulot de pape. Et il y en a un qui fait pas son boulot de cinéaste. C'est Wim Wenders qui fait n'importe quoi.
Déjà, les films d'avant étaient.
Non, mais depuis quelque temps. Mais tu as évoqué le truc ridicule de l'apparition de Saint-François en noir et blanc avec un mauvais acteur, etc. Mais tout le reste, c'est lui aussi en fil des perles, parce qu'il y a un commentaire de Wim Wenders où c'est la Terre tourne rond, plus rond maintenant, mais c'est abominable. Donc il y en a, je ne sais pas ce que devient Wenders. Alors j'espère pour lui qu'il a été payé très cher.
Voilà. C'est produit par le Vatican, encore une fois.
Hein. Voilà.
C'est
donc, produit par le Vatican. Il y en a un qui fait son boulot, le pape, et un qui ne le fait pas, c'est le cinéaste. Voilà, c'est
tout. Éric qui a été baptisé, hein.
Oui. Non, mais j'étais trop jeune pour savoir. Non, mais il ne faut pas oublier que Wim Wenders, ses vrais films, entre guillemets, ne sortent plus. Il a tourné un polar l'an dernier qui n'est.
Non, mais il a sorti un film avec.
Reda Kateb, d'après
avec
une Reda pièce.
Kateb, avec un improbable. Ah oui, parce... dans le
mais quand
du
tu sortes, on s'en aperçoit pas.
C'était alors. Peter Handke.
Oh là là, mon Dieu.
Non, non, mais.
Bon, c'était quelque chose.
Ah, oui. Et le truc avec Charlotte
Gainsbourg. C'était même un chemin de croix.
Oui.
Et rappelez-vous que c'est quand même. Il est catholique et qu'il voulait devenir prêtre. Un peu comme Scorsese, mais on peut pas dire qu'ils aient fait le même cinéma, hein. Parce que Wenders, c'est quand même du Prozac sur pellicule en permanence. Et là, je suis désolé. Heureusement qu'il y a le pape François, parce que on sent quand même que ce type est fait quand même d'un beau matériau.
Comment ça, un beau matériau? On dit pas du pape qu'il est fait d'un beau matériau.
Non, on sent.
T'es au Figaro, je te rappelle.
C'est quelqu'un qui sait parler, mais qui sait écouter, visiblement. Même ses silences sont éloquents. Et Wenders plante sa caméra. Effectivement, il se fatigue pas beaucoup. Il y a un problème, c'est que par moment, il y a sa voix off de Wenders. Alors, qui endormirait une cathédrale entière. Mais, en deux secondes.
Faut quand même dire que c'est 80% d'images.
Non, et le pape
n'a pas tourné Wenders. C'est une arnaque, ce film.
Un mot de ce film.
Oui. Je voudrais rappeler que Wenders a quand même fait le sel de la terre, ce portrait de Salgado que moi j'ai trouvé magnifique.
Très beau, oui.
Très très beau film. Ah non, moi je le trouve magnifique et c'est un grand film. Je suis désolée. Et en vieillissant, il aspire comme il a toujours aspiré une forme de pureté et tout. C'est vrai qu'on peut se moquer. Le film est assez risible par moments et c'est vrai que ce petit film sur Saint-François d'Assise est assez ridicule et c'est un film on ne peut plus candide pour ne pas dire angélique. En même temps, si c'est pas avec le pape qui fait quelque chose angélique, il le fera jamais. Mais c'est vrai que tout ça est un peu naïf. Et en même temps, moi, je suis sensible à la parole, à cette parole. Alors, à quoi il sert? Ben, il sert symboliquement, il sert à parler, il donne de l'espoir aux gens, parce que tu dis à quoi il sert. Mais quand il va voir les migrants, le pape, quand il va voir les pauvres, quand il rappelle au gouvernement que parce que c'est un homme qui est vraiment concerné par le monde moderne et qu'il est ravagé par l'argent, la cupidité, etc., il donne de l'espoir aux gens, il sert à quelque chose. Il faut
c'est
voir,
bien, Sophie, c'est bien.
Il faut non, voir comment il faut les migrants ça, le regardent.
Pas du tout.
C'est bien, symboliquement, Sophie. Il est là, le pape, et ce qu'il dit, mais c'est très simple. Il ne fait pas des cours de théologie. En effet, il dit que la pluie mouille, c'est vrai. Il dit il faut rire, il faut jouer avec vos enfants, il faut que vous ayez de l'humour. C'est vrai que c'est des choses simples. Mais il donne de l'espoir à des millions de gens, je suis désolée. Et ça, il le montre, Wenders, et ça, c'est assez beau.
C'est un bon communicant, c'est un bon VRP.
Oh. Allez, le pape François, un homme de parole, contrairement à Xavier, et c'est Wim Wenders. Allez, très rapidement, un autre doc sur une figure un peu moins christique. Encore que. Le documentaire consacré par Kevin MacDonald, le réalisateur du Dernier Roi d'Écosse à la Reine, Whitney Houston. Icône pop disparue, vous le savez, en 2012 à 48 ans d'une overdose plus de coke que de médoc, récit de son enfance pavée de traumatismes, dont la fameuse terrible agression sexuelle commise par sa cousine Didi Warwick, ses amours tempétueuses et bi, sa carrière et derrière les 200 millions d'albums vendus, sa descente aux enfers, portrait aussi d'une femme devenue un symbole national. Ça, on sent que ça l'intéresse, MacDonald, après avoir en 91 interprété façon gospel l'hymne américain lors du Super Bowl. Bref, un doc classique, hein, sur l'héroïne de Bodyguard qui mêle images d'archives et témoignages de ses proches. Ça dure quand même 2 heures. Pierre.
C'est pas très bon parce que le Whitney, elle,
est un personnage absolument romanesque. Alors là, pour le coup, mais la façon dont il la filme, c'est-à-dire ces témoignages comme ça, on voit ça, vous savez, dans, il y a plein de docs qui passent.
C'est un doc de télé, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, c'est un téléfilm. Enfin, c'est un doc de télé. Vous savez, il y en a plein, Humphrey Bogart raconté par Lorraine Bacall, machin, tout. Ben, c'est de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a alors quelques témoignages un peu plus intéressants. Les deux frères qui disent, ah ouais, on s'est drogué très jeune avec elle. Et le mari qui dit, non, on parle pas de drogue avec moi. Bon, il y a deux, trois moments assez drôles. Mais tout le reste est,
quand on voit le film qui avait été fait sur Amy, c'était Winehouse, ça c'était du cinéma.
Et Janice Joplin.
Et Joplin.
Et voilà, et là c'est rien. Voilà.
Eric.
Mais à quoi elle sert, Whitney Houston? Le pape est plus utile. Non, mais quand on voit cette fille, les chansons sont complètement nulles.
Ah non, je suis pas d'accord. Non, ça, c'est la grande tendance maintenant.
Mais c'est pas la grande tendance.
Il y en a des très belles.
Mais tout le monde s'en fout de Whitney Houston en 2018.
Mais
ah bah vous êtes courageux, j'en sais rien.
Mais documentaire,
mais non.
Si.
Mais non, puis cette fille, elle a l'air tellement bête en plus.
Oh.
Mais c'est pas vrai, Eric.
Non mais son regard est encore plus vite quand elle est pas droguée que quand elle l'est. Alors. On voit que c'est une andouille qui n'a rien compris à ce qui lui arrivait, qui s'est fait exploiter par tout le monde, et le film est assez focus, c'est ce genre de film totalement contrôlé par la famille, qui veut en faire une victime, une demi-sainte.
Mais au contraire,
il y a eu la semaine dernière sur C8, qui est quand même pas la chaîne la plus glamour,
c'est pas Arte,
un documentaire sur elle, qui est mille fois plus intéressant, mille fois plus percutant.
Moi, justement, ce que je trouvais intéressant dans le film, c'est que c'est peut-être, effectivement, il dit que c'est un portrait de Whitney Houston. En fait, c'est pas elle le plus important dans le film. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il arrive à filmer d'abord 3 décennies de l'Amérique, et il arrive à filmer surtout l'envers du rêve américain à travers cette famille de la toute petite middle class afro-américaine. Et ça, c'est passionnant. Alors, je sais pas si elle est représentative ou si elle est emblématique, cette famille. Mais entre, en effet, les frères qui disent qu'ils vont protéger Whitney Houston et qui l'initient.
D'accord, et ça, c'est la forme du film,
mais
c'est
ça.
Trop.
Bah, c'est un puzzle. Alors, à force de mitrailler,
classique.
C'est en multipliant comme ça les interviews qu'on voit ce père qui est horrible, qui est mort, mais qui fait un procès à sa fille parce qu'en fait il était ivre de pouvoir et d'argent. Sa mère qui lui chuchote, n'oublie pas qu'il t'a élu en parlant de Dieu. La petite fille qui a eu une vie de fantôme, qui est morte à 22 ans en suivant sa mère, 2 ans après sa mère, c'est affreux. Et cette famille qui est à la fois toxique et en même temps qui parle de l'Amérique de ces années-là. Et ça, c'est fort dans le film.
Xavier, c'est ton sentiment aussi ?
Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec Sophie. Je trouve que c'est un film qui est un documentaire qui a un vrai point de vue. D'abord, c'est celui de raconter que Whitney Houston, qui faisait une pop sucrée, a constamment été attaquée sur son homosexualité, présumée, sur sa drogue, donc toujours menacée comme ça d'être révélée, d'être jetée en pâture. Et puis, je suis entièrement d'accord avec Sophie, c'est 30, 40 ans de l'histoire de la communauté noire aux États-Unis. Elle connaît encore la ségrégation, les résidus de ce moment-là, sa tante, sa mère qui essaie d'être chanteuse. Je trouve que c'est quand même un grand documentaire sur la fin du XXe siècle, vu effectivement à travers la communauté noire, et une chanteuse mise en avant, mais constamment menacée d'être destituée.
On parlait donc du documentaire de Kevin MacDonald, Whitney. Et on termine avec un conseil, mais que vous allez vraiment citer, Pierre.
Un film qui s'appelle Dovlatov, qui est le nom d'un romancier russe. Le film est signé Alexei German, qui est le fils donc d'Alexei German, qui avait fait Khrustalyov, ma voiture et 20 jours sans guerre. Et c'est donc le 6 jours de la vie de cet écrivain dans les années 70 à Moscou. Et c'est absolument passionnant.
Eric.
Le célibataire d'un cinéaste qu'on redécouvre, qui s'appelle Antonio Pietrangeli. Ça date de 1955. C'est avec Alberto Sordi. Et c'est une très très bonne comédie italienne, mais moins bonne que les autres films qu'a fait ce type-là, mais il faut y aller quand même.
Sophie.
Très vite, 2 films. Leave No Trace de Debra Kranich et Sophia.
Dont nous parlerons dans le prochain Masque et la Plume.
Bon. Et Sophia de Myriam Benbarek, qui est un portrait du Maroc très complexe, très sobre et très beau.
Et très juste, je trouve.
Très juste.
Xavier, pour finir.
Coup de cœur pour Thunder Road, un premier film écrit, réalisé et interprété par Jim Cummings, le portrait d'un flic névrosé qui vacille comme l'Amérique dans laquelle il s'inscrit.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Xavier Leherpeur, Pierre Murat, Eric Neuhoff, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam, chargée de production ce soir, Franck Malabry, et à la technique ici dans l'Opéra National de Lorraine. Et je les remercie, Andreas Jaffré, Loïc Duros, Gilles Manet, ainsi que Tanguy Lecorneau, la réalisation était signé Xavier Pestuggia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 20 septembre au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera encore de films. Merci Nancy, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.